le plus grand des commandements. Voilà bien, il y a plus de 2000 ans, un sujet de discussion âpre, sans bienveillance, avec des moyens loin d'être francs, entre les docteurs de la loi juive, entre sadducéens et pharisiens, et un homme qui, avec autorité, bouleversait les règles établies et laissait sans voix les spécialistes au point qu'ils n'avaient plus rien à ajouter à propos de celui qui avait pour nom Jésus. Dans quel contexte sommes-nous à cette époque? Eh bien, c'est une période de conflit où Jésus conteste la position de ceux qui prétendent détenir la vérité. Les sujets principaux portent sur la question du tribut à César, la résurrection des morts, le fils de David, et dans les passages que nous venons de lire, c'est à propos du grand thème « Tu aimeras », à propos duquel il nous a raconté qu'il est la raison des attaques sans cesse soutenues de la part des docteurs de la loi, et pas n'importe lesquels, car ils ont mis là les plus forts, les meilleurs, qui useront même de coups tordus pour renvoyer à ces leçons, voire rechercher les moyens qui provoqueraient la perte du responsable de ce nouveau message, c'est-à-dire Jésus. Dans le peuple d'Israël, la loi est d'une très, très, très grande importance. Et tout juif croyant se devait de l'appliquer strictement. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est 613 commandements dits positifs, 365 interdictions et 248 autres prescriptions, dont les rabbins soulignaient l'importance égale, du plus petit jusqu'au plus grand. Pas l'un plus important que l'autre. Cette règle était incontournable. Mais revenons à notre texte. Vous aurez certainement remarqué que pour Matthieu et Luc, il est parlé de piège, de mise à l'épreuve, dans l'approche des questions concernant le plus grand des commandements. Et le but avoué était bien de réduire au silence ce Jésus qui attirait les foules. Seul Marc nous présente un scribe qui s'avance sans polémique pour mieux comprendre ce que Jésus enseignait. Ce qui prouve que même dans ce milieu-là, très dur, il se trouvait des hommes qui cherchaient d'un cœur sincère le chemin qui mène au royaume de Dieu. Jésus va d'ailleurs le lui dire, « Tu n'es pas très loin du royaume. » Nous avons donc d'un côté les docteurs de la loi qui font la distinction entre les commandements faciles et ceux qui sont difficiles, entre les commandements importants et ceux qui le sont moins, mais qui, individuellement, doivent impérativement être respectés parce que de même importance. Et de l'autre, Jésus qui innove en précisant qu'il y a deux commandements et que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier, obligatoirement lié au second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là, dit Jésus. Alors vous le comprenez, réponse scandaleuse pour la plupart des docteurs de la loi, mais aussi étonnante remarque de ce scribe, pourtant éminent connaisseur de cette loi, qui va dire « Maître, tu as dit vrai, ce commandement vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. » Alors, que signifie la réponse de Jésus mettant en parallèle le commandement d'aimer Dieu et d'aimer le prochain? Ce n'est pas n'importe quoi, ce commandement. Cette étape décisive qui nous conduit à aller vers l'au-delà de la loi, au-delà de son objectif ou de son but établi. Une étape nouvelle qui nous entraîne vers l'action, l'engagement et non l'évitement. Il faut noter pour Israël, à l'époque, le prochain est important, mais il ne peut être que les membres de son peuple, à l'exclusion de tous les autres. Or, le prochain pour Jésus, c'est bien sûr l'étranger, celui que je ne saurais fréquenter parce que différent de moi. C'est le païen, c'est même le samaritain, ce samaritain qui a tout faux sur le plan religieux et qui pourtant sera le seul à s'occuper du pauvre bougre, laissé là presque mort sur le terrain. Le prochain pour Jésus, ce sont tous ces gens infréquentables, dans certains cas ne devant même pas être touchés, car la loi précise que c'est se rendre impur que les côtoyer ou de manger avec eux. Quel changement d'objectif! Et Jésus n'a jamais manqué de donner de nombreuses illustrations dans sa parole, dans ses actes, de ce que peut recouvrir le terme de prochain. Alors Jésus nous demanderait-il l'impossible? Comment peut-on se forcer à aimer? À l'évidence, c'est tout naturellement que nous sommes tentés par son contraire, c'est-à-dire le prochain à notre convenance, notre famille, nos propres amis, notre communauté spirituelle, etc. Et Jésus, bien évidemment, ne les exclut pas en tant que prochain. Mais il nous demande également de ne pas oublier les autres et de rechercher au fond de moi, comme au fond de l'autre, ce qui font que malgré mes différences, malgré mes préjugés, malgré les peurs qui m'enchaînent, je peux reconnaître en l'autre une part de cette humanité que je partage avec lui. Je peux voir en l'autre, malgré ce qui me repousse, un frère, une sœur, avec lequel je vais pouvoir établir une relation qui n'est pas de l'ordre du « je t'aime » ou je ne t'aime pas, selon ma compréhension première, mais je peux reconnaître en l'autre un fils, une fille, créature de Dieu. Le texte lu, ou les textes lus, peuvent également nous inviter à réfléchir sur la tentation toujours possible de mettre à l'épreuve, voire de piéger les évangiles, et donc le Christ pour oublier notre spiritualité, notre protestantisme, la réforme de Luther et de Calvin, et donc d'oublier l'essentiel de l'enseignement de Jésus qui est venu parler aux petits, aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas de culture, mais qui savaient rendre grâce des messages écoutés et reçus. Alors ce matin, frères et sœurs, nous sommes placés devant un tableau de vie difficilement réalisable. Mais je crois pouvoir dire que Dieu le Père ne nous demandera jamais de remplacer sur cette terre son Fils, Jésus-Christ. Retenons pourtant que pour l'axe de son amour, l'amour du prochain, celui-ci est fondamental pour Jésus car il développe cette dimension de la loi en doublant « tu aimeras ton prochain de toute ta force » par « tu aimeras ton prochain et ton Dieu ». Il nous invite à ne pas prendre toute liberté sur ce que veulent dire les évangiles, mais il nous invite également à ne pas tomber dans un radicalisme qui fige toute chose. Nous avons à considérer avant tout Jésus étant l'exemple qui l'amènera jusqu'au bois maudit dont il sortira vainqueur. Que l'amour reste toujours le mot-clé de son Église. Cela doit nous aider, pour le moins ne pas exclure à l'emporte-pièce des personnes du club des fidèles, ni se croire dispensé de se convertir encore et toujours, dira le pasteur Marc Pernaut à une amie dans une lettre. Ces versets, il est vrai, nous bousculent quelque peu et prouvent que pour avancer sur le chemin tracé par notre Seigneur, il nous faut chaque jour sa main, ce courage, pour tenir notre gouvernail de chrétien par le cœur et pas seulement par la pensée. Dieu sort pour nous inviter. Et s'il nous précise que l'amour est nécessaire pour colmater les brèches de nos ruptures et de nos impasses, c'est pour connaître l'importance de la joie partagée lorsque la vie a gagné contre la mort de nos relations. Alors entrons dans son royaume d'amour, d'accueil mutuel et de paix, afin que sa joie soit complète. Et si c'est difficile, rappelons-nous que le Christ est venu pour les pécheurs, pour les athées, pour les faibles que nous pouvons être de temps en temps. Alors, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Oui, il y a encore beaucoup d'espoir. Amen.